de Jérusalem investie par des armées s'assure alors que la désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui sont au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée sous les pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Alors tout cela s'est accompli donc en l'année 70, enfin jusqu'au verset 24, le reste est en train de s'accomplir. Il y a plusieurs historiens qui ont écrit cette guerre, les Juifs finalement se sont révoltés contre Rome. Et Rome est venu avec ses armées, ils ont ravagé le pays d'Israël, la Palestine, ils ont assiégé la ville de Jérusalem, et au bout de 3 ans, la ville a cédé. Mais en attendant, les gens mouraient de faim, ont jeté les cadavres par-dessus les murailles. Les femmes mangeaient leurs enfants, c'était inimaginable. Il y avait de faux Christs qui se levaient et qui prétendaient pouvoir renvoyer les Romains. On les suivait et ça donnait là encore plus de massacres. C'était absolument épouvantable. Et finalement, les Romains ont pu percer les murailles et ils ont tué la plupart des habitants, ils ont tout brûlé, ils ont tout détruit et ils ont mené tout le reste de la population. Ils ont été vendus en esclaves dans tous les pays aux alentours, par l'armée romaine. En Égypte, il y avait tellement d'esclaves juifs à vendre que personne ne voulait même les acheter. Le marché était saturé. Il y avait même des pauvres juifs là, des femmes, des vieillards, des enfants, des jeunes filles. Personne ne voulait les acheter. Et crevés de faim, mourés de faim, ils étaient là avec le soleil qui tapait dessus, personne ne voulait les acheter. Ils voulaient même se faire acheter comme esclaves pour avoir un brin de pain à manger. C'est incroyable. Vous savez, lorsque l'homme se met contre Dieu, Dieu patiente assez longtemps, mais il arrive un moment où Dieu enlève sa main et on est livré à la merci de l'ennemi. Et c'est absolument épouvantable. Jérusalem avait déjà été détruit 600 ans avant. Les Juifs, maintenant, devaient réapprendre la leçon. Et dans Matthieu 24, Jésus parle d'une deuxième destruction de Jérusalem. Mais regardez encore un moment, le verset 24 de Luc 21, 24. Les Juifs donc seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et c'est vrai, il n'y a pas un pays au monde où on ne trouve pas de Juifs. Et Jérusalem sera foulée aux pieds des nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Les Juifs n'ont plus jamais possédé la ville de Jérusalem jusqu'à maintenant, depuis 2000 ans. Et encore, ils ne possèdent pas toute la ville. C'était en 1937 lorsqu'ils ont... Non. Pardon ? 48. 47. C'était la guerre... La guerre de 6 jours.
67.
Oui, 67. Parce qu'il y a eu 3 guerres, n'est-ce pas ? En 67, les Juifs ont été attaqués par... Israël a été attaqué par Nasser, et les Juifs ont riposté, et le résultat, c'est qu'ils ont pris la ville de Jérusalem. Vous savez, mon cœur battait en ce moment-là, parce que je connaissais cette prophétie. Depuis 2000 ans, Jérusalem n'avait pas appartenu au peuple d'Israël. Il avait appartenu aux Romains, et ensuite aux Arabes, et ensuite aux Turcs, et ensuite aux Anglais, après la Première Guerre mondiale. Et maintenant, pour la première fois, Israël reprend Jérusalem. En attendant, il avait appartenu à la Jordanie. Est-ce que c'était la fin des temps des nations? Et pendant toute une nuit, j'écoutais les nouvelles, pour savoir s'ils allaient prendre le temple aussi, le site du temple, la mosquée d'Omar. Il me semble que Dieu a mis son doigt pour empêcher l'accomplissement final de cette prophétie. Le lendemain, le drapeau israélien flottait sur la ville de Jérusalem. La police et l'armée israélienne contrôlaient la ville. Mais ils n'ont pas pu chasser les Arabes qui habitaient là. Et ils n'ont pas pu prendre non plus le temple, le site du temple. Alors nous vivons actuellement une anomalie absolument extraordinaire. Vous savez, si cette nuit, un fou jetait une bombe sur la mosquée d'Oma, ou d'Aqsa, sur le site du temple, et si finalement les Juifs prenaient ce site ce soir, cette nuit, demain matin, je crois que nous pourrions être dans la fin des temps des nations. Ne me demandez pas trop ce que ça représente, mais je sais que ça précipite des temps de la fin, carrément. Je ne sais pas à quel moment cela arrivera. En attendant, il me semble que Dieu empêche l'accomplissement de la prophétie parce qu'il veut nous laisser le plus de temps possible pour évangéliser le monde et pour amener le plus d'hommes et de femmes à la connaissance du Christ. Mais vous voyez que actuellement tout tient un fil. Vous savez, depuis la dernière guerre mondiale, moi je vis comme sur une lame de rasoir. Déjà pendant la guerre, lorsque j'étais en Irak, en Iran, à Jérusalem, à Damas, au Liban, en Égypte, dans ces pays-là où j'étais dans le pays de toutes ces prophéties, les pays de la Bible, je commençais à voir beaucoup de choses claires, parce qu'à cette époque-là, j'avais lu ma petite Bible de poche X fois, je ne sais pas combien de fois, je dévorais ma Bible, et énormément de choses sont devenues claires pour moi. Et je ne m'attendais plus à voir le monde et la carte du monde d'après-guerre identique à celle d'avant-guerre. Et j'ai commencé déjà à prévoir tout un tas de changements. Je savais, par la Bible, et aussi parce que j'avais les yeux ouverts, je savais que l'Europe, y compris la France, la Grande-Bretagne, et l'Italie, et la Belgique et la Hollande, perdraient leurs colonies et seraient obligés de se replier sur eux-mêmes pour former finalement une Europe. Je savais que tout ce qu'on appelle actuellement l'Occident, qui est la forme moderne de l'Empire romain occidental, latino-germanique, serait détaché du reste du monde. Je savais que la Russie deviendrait une grande puissance avec d'autres pays satellites autour d'elle. Je savais que l'islam redeviendrait une puissance mondiale. Je savais que les Arabes redeviendraient des nations fortes et que finalement ils deviendraient un grand empire et qu'il y aurait en Extrême-Orient, plusieurs grands pays importants qui surgiraient au temps de la fin comme un bloc à part. Je voyais ces quatre blocs que l'Apocalypse appelle, je suis persuadé, les quatre vents des cieux, dans l'Apocalypse chapitre 20, chapitre 7, et que Daniel voyait aussi dans son chapitre 7 comme les sept vents de la terre. Tout cela, je le prévoyais. Et plus je connaissais les prophéties de la Bible, plus je savais que finalement, tout dépendait de ce qui se passait dans la ville de Jérusalem. Si cette nuit, les Juifs, Israël, rejetaient tous les Arabes de la ville de Jérusalem et prenaient le site du temple, eh bien je ne sais vraiment pas où nous nous en trouverions demain matin. Mais je crois que ça pourrait précipiter tous les éléments du temps de la fin. D'ailleurs, si cela arrivait, si les Juifs prenaient le temple de Jérusalem cette nuit, le site du temple, je crois que les 8 ou 900 millions de musulmans dans le monde déclareraient tout de suite la guerre sainte contre Israël. Toutes les grandes puissances seraient obligées de s'en mêler. Les Arabes d'un côté, peut-être l'Occident d'un autre, la Russie, mais nous pourrions d'un jour à l'autre nous trouver dans une crise mondiale qui nous obligerait toutes les nations de prendre des mesures qui mettraient en évidence la carte du monde des temps de la fin. Absolument. On y est presque, il y a tout un échafaudage. Cela tient, comme j'ai dit tout à l'heure, un fil. Et c'est pour cette raison qu'une fois que je suis revenu de la guerre, une fois que j'ai été libéré de ce cauchemar, une fois que je suis revenu d'Allemagne, où j'ai vu tout le processus de la Gestapo et du système nazi, j'ai dû rester en Allemagne pendant presque un an après la guerre avec les troupes alliées et dans une branche spécialisée dans le but d'essayer de défaire tout ce système afin de protéger votre génération d'une répétition de ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant le massacre des 6 millions de Juifs et la tuerie de 40 millions de gens en Europe et ailleurs. J'ai eu des cauchemars pendant 2 ans après ma libération. Mais je suis revenu avec une nouvelle connaissance de la Bible, une nouvelle connaissance du monde, une connaissance approfondie de Dieu et des choses de Dieu, et une connaissance beaucoup plus approfondie de moi-même et de la nature de l'homme, et aussi une connaissance beaucoup plus aiguë de la valeur du temps. Et pendant ces quelques années, juste après la guerre, lorsque j'ai pu rencontrer d'autres chrétiens, je leur disais « le temps est court ». nous n'avons pas une minute à perdre. Mais pendant quelques années après la guerre, presque toutes les portes du monde étaient ouvertes à l'Évangile. Tous les pays musulmans, sauf peut-être l'Arabie Saoudite, dans tous les autres pays, on pouvait envoyer des missionnaires, des Bibles. On pouvait encore évangéliser un peu en Europe orientale. Et pratiquement tous les autres pays du monde étaient grandes ouvertes. Même la Chine, parce qu'elle n'était pas encore devenue communiste. Et il me semble que les chrétiens ici en Occident, ils étaient épuisés après la guerre, ils voulaient reconstruire leurs maisons, ils voulaient rétablir leurs industries et leur commerce, etc. Au lieu de mettre leurs toutes premières énergies, à mettre toutes leurs forces à apporter la connaissance de Christ au monde entier. Au bout de 3, 4, 5, 6 ans, les portes ont commencé à se fermer. La Chine a été prise par Mao Tse-tung. Toutes les portes fermées, les chrétiens systématiquement massacrés, progressivement plus durement. La Russie ferme les portes, Berlin est divisé en deux, le mur de fer, le mur de bambou en Asie, et puis les pays africains jetaient leurs maîtres européens, établissaient quelquefois des dictatures, de plus en plus des dictatures. Enfin, de plus en plus, les portes du monde se fermaient contre l'Évangile. Actuellement, pratiquement tous les pays musulmans, je crois que je peux dire tous les pays musulmans, sont presque hermétiquement fermés contre l'Évangile. Au Pakistan, et on peut encore faire quelque chose chez les musulmans. En Inde aussi, parce que l'Inde, bien qu'il y ait à peu près, je crois, 80 000 musulmans en Inde, l'Inde quand même, c'est un pays hindou, et les musulmans ne sont pas tout puissants dans ce pays. Mais dans la majorité des pays, et en Indonésie, on peut encore évangéliser les musulmans, mais nous avons encore des portes ouvertes devant nous. Nous avons encore du temps, mais nous ne savons pas combien. Et moi, depuis 1945-46, depuis la dernière guerre mondiale, moi, je considère que ces temps de la fin peuvent venir presque d'un jour à l'autre. Or, je le disais aux chrétiens, et je crois qu'ils pensaient que j'étais vraiment complètement cinglé. On me regardait comme si je parlais de, je ne sais pas, de la conquête de la Lune. Il me semble que presque personne ne comprenait. Mais vous savez, malheureusement, tout ce que je prévoyais s'est accompli progressivement dans le monde. Et finalement, lorsqu'Israël a pris la ville de Jérusalem, j'ai compris que réellement, il fallait une allumette pour nous précipiter dans la grande crise de la fin. Pourquoi est-ce que Dieu a patienté si longtemps? Et pourquoi est-ce que nous, chrétiens, ici en Occident, sommes-nous en liberté? Pourquoi est-ce que nous avons le droit de prêcher l'Évangile, d'avoir des Bibles, de faire tout ce que nous voulons, alors que nos frères derrière le rideau de fer, et dans combien d'autres pays du monde, n'ont même pas de Bible, n'ont pas le droit de posséder une Bible? Dans les pays musulmans, si une Bible apparaît, alors c'est considéré comme un crime contre l'État. Pourquoi est-ce que nous serions en liberté, dans le confort, avec tout ce qu'on veut, pratiquement, alors que nos frères ailleurs sont terriblement privés et persécutés? Je suis absolument sûr que la seule raison pour laquelle Dieu nous laisse en liberté ici en Occident, c'est parce qu'il sait qu'il y a suffisamment de chrétiens avec suffisamment de moyens intellectuels, techniques, financiers pour parachever l'évangélisation du monde d'une manière ou d'une autre. Radio, cassette, télévision, enfin tout, missionnaire, imprimerie, tout. D'une manière ou d'une autre, notre devoir, c'est de faire pénétrer l'Évangile dans tous les pays du monde. Mais ça devient progressivement plus difficile chaque année. Et je suis sûr que la seule raison pour laquelle nous sommes encore en liberté, c'est parce qu'il y a ici en Occident, non seulement une masse d'églises endormies et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, et qui souvent se mangent entre elles, avec toutes sortes de disputes, de bêtises, controverses de doctrine et de choses souvent secondaires. La seule raison pour laquelle nous sommes en liberté, c'est parce qu'il y a une minorité de vrais chrétiens qui sont fortement attachés à la Bible et qui ont comme vision la pénétration du monde entier par la connaissance du Christ et qui ne vivent que pour faire connaître Christ au monde. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis que Jérusalem soit détruite avant l'année 586, avant Jésus-Christ. Dieu a patienté bien des fois. Les Assyriens ont failli détruire Jérusalem, les Égyptiens ont essayé, les Syriens ont essayé, ils ont chaque fois mis sa main. Mais finalement, lorsque Nebuchadnezzar est venu de Babylone avec ses féroces armées chaldéennes, Dieu a enlevé sa main, il a permis que Jérusalem soit détruite. Parce que à l'époque du prophète Ésaïe et du prophète Ézéchiel, Dieu ne trouvait pratiquement plus personne qui écoutait la voix du prophète et qui fasse attention à la voix de Dieu. Alors, je crois que nous vivons à une époque très critique où tout est possible. Dieu n'est pas fataliste et il n'est pas capricieux. Mais Dieu agit toujours en conséquence de son propre caractère et en conséquence de l'attitude de l'homme. Lorsque Dieu a envoyé le prophète Jonas à Ninive pour dire « si vous ne vous repentez pas, vous serez détruits », Dieu finalement a vu que le peuple s'est repenti. Quelle chose extraordinaire, une grande ville païenne comme ça qui se repent. Et Dieu a renvoyé le malheur. Ninive n'a pas été détruite après les 40 jours annoncés par le prophète Jonas, parce que le peuple s'est repenti. Ninive a été détruite à peu près, presque 200 ans après, en l'année 612 avant Jésus-Christ, et par un autre peuple. C'est un fait historique que vers l'année 800, à l'époque où Jonas est allé à Ninive, il y a eu un roi, nous le savons par les inscriptions et les informations qui nous parviennent de cette région, il y a eu un roi à Ninive à cette époque qui a institué une religion monothéiste. Ça n'a pas duré longtemps. C'est extraordinaire. Et moi je crois que ça c'est le résultat de la prédication de Jonas. Et même l'histoire et l'archéologie confirment cela. En tout cas, ça c'est en passant. Mais le Seigneur Jésus nous parle ici dans ce chapitre des temps de la fin. Et il nous fait comprendre que, par Luc 21, que les Juifs seraient dispersés dans tous les pays du monde jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis et que la ville de Jérusalem serait foulée sous les pieds des païens, des nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Mais alors, quel moment critique nous vivons, n'est-ce pas, actuellement? Les Juifs ne sont plus dispersés de cette même manière. C'est vrai, ils sont encore, on en trouve partout. Mais il y a une grande minorité qui est déjà revenue dans la terre ancienne. Et le fait qu'il y a un État d'Israël, pour moi, c'est absolument imaginable. Vous savez, quand j'étais tout jeune, enfant, et j'entendais quelquefois lire la Bible, les prophètes et les histoires de l'Apocalypse, l'avènement de l'Antichrist, la matinée d'Armageddon et tout ça, et des signes dans le ciel, oh, je me disais, oh, peut-être que dans 2000, 3000 ans, ce sera possible. Et je ne pensais pas qu'au cours d'une soixantaine d'années, je verrais déjà ces choses de mes yeux sur la terre. C'est extraordinaire, comme les choses marchent vite aujourd'hui. Quand j'étais petit, l'idée de l'Antichrist qui contrôle le monde entier et qui fasse une image qui parle, etc., etc. Mais aujourd'hui, chacun a cette image dans sa maison, la télévision, qui un jour sera récupérée par le grand dictateur et qui va contrôler le monde entier par le moyen d'une économie absolument, totalement surveillée et contrôlée, réglementée, et par une police secrète universelle et par, je crois, la télévision. Savez-vous qu'Hitler, qui était la nation peut-être la plus avancée du monde avant la guerre, peut-être pas autant que l'Angleterre, mais très très avancée, a été mené par le bout du nez par ce petit Gavroche, comme Hitler, comme Churchill l'a décrit une fois à la radio, ce qui a dû enrager Hitler, pas inimaginable. Hitler a contrôlé l'Allemagne par deux moyens, par la police secrète et par la radio. La voix d'Hitler à la radio hypnotisait les Allemands. Ils le suivaient aveuglément, comme un Dieu, comme un Christ. Il y en avait qui disaient même c'est le Christ, alors que c'était pratiquement un démon. Enfin, il était certainement démoniaque. Alors, quand viendra le grand Antichrist au temps de la fin, la Bible nous dit qu'il va contrôler toutes les nations et il va faire que tout le monde adore l'image de la bête. Moi, j'imagine le visage de cet homme avec son génie, avec sa puissance, son magnétisme satanique et spirituel et psychique qui se montre sur l'écran peut-être tous les jours, des programmes obligatoires dans toutes les usines, tous les bureaux, toutes les maisons, à telle et telle heure, il faut écouter le grand chef. Et j'imagine comme toutes les nations de la Terre emballées par ses idées géniales, par sa philosophie, par les solutions magistrales qu'il apporte aux problèmes du monde pour sauver le monde d'une guerre nucléaire et d'une catastrophe économique. Oui, j'imagine très bien cela. Alors Jésus met ses disciples en garde en parlant des temps de la fin. Le Seigneur Jésus ne dit pas beaucoup dans ces deux chapitres. La Bible nous dit beaucoup sur ces choses. Mais j'aimerais très rapidement, je prenais encore quelques minutes, pas beaucoup. On ne va pas terminer ce sujet ce soir. Mais Jésus nous montre quelques signes du temps de la fin. Et ce chapitre, jusqu'au verset 31, ça fait une unité. Après le verset 32, ça parle d'autre chose. Dans cette trentaine de versets, le Seigneur Jésus parle de quatre catégories de signes. C'est très utile. Le Seigneur nous aide donc à classifier nos idées concernant la prophétie biblique. Et ensuite, dans notre étude de la Bible, nous pouvons par exemple avoir un carnet et faire de petits chapitres ou des pages sur notre carnet. Bon, alors, signes dans les nations, ça c'est notre premier groupe, jusqu'au verset 8. Jésus parle de signes qui vont s'accomplir parmi les nations. Jusqu'au verset 8. Ensuite, versets 9 à 14, il parle de signes dans l'Église au temps de la fin. 9 à 14, signes dans l'Église. Et puis verset 15 jusqu'au verset 28, 15 à 28, signe en Israël, au temps de la fin. Donc 15 à 28, Israël. Et verset 29 jusqu'au verset 31, signe dans les cieux, avec le signe culminant du retour du Christ. Donc 29 à 31. Alors, c'est merveilleux comme le Seigneur Jésus nous ouvre, nous donne la clé pour comprendre la Bible. Moi, j'ai toujours commencé avec les évangiles. Je considère que Jésus est comme l'arbre de vie. Les actes, les épîtres, l'Apocalypse, tout le reste du Nouveau Testament, ce sont les ramifications et la floraison de tout ça. Mais les racines de l'arbre se trouvent dans l'Ancien Testament. Et si on commence par l'arbre, on peut aussi voir d'où vient l'arbre dans l'Ancien Testament et où ça mène dans les ramifications du reste du Nouveau Testament. Mais Jésus nous parle avec un langage tellement clair, de petites phrases, comme des coups d'épée, des coups de marteau, des flashs de lumière, pénétrants, c'est clair. Généralement, on ne peut pas se tromper sur la signification des phrases de Jésus. Alors que d'autres écrivains, par exemple certains des prophètes, et même l'apôtre Paul, et quelquefois même l'apôtre Pierre, ils ont de longues phrases. Paul a même une phrase de 13 versets dans le chapitre 1er. De l'épître aux Éphésiens. Ceux qui ont traduit la Bible en français, ils l'ont coupé quand même en plusieurs phrases, mais en grec, c'est une seule phrase. Mais alors Jésus, quand il parle, c'est toc, 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 toc. Blanc ou noir, lumière, ténèbres, n'est-ce pas? Et Jésus nous aide à voir très très clair dès le début. Ensuite, on peut voir dans l'Ancien Testament d'où il a tiré tout ça, et on peut voir le développement de ça dans le reste du Nouveau Testament et dans l'Apocalypse. Alors Jésus nous donne donc quatre catégories de signes. Il dit donc, au temps de la fin, regardez les nations, regardez ce qui se passe parmi les nations. Et il nous donne ici quatre signes dans les nations. La Bible nous en donne beaucoup, beaucoup plus. J'aurais aimé avoir deux ou trois jours avec vous, ne serait-ce que pour parler de ces temps de la fin. C'est non seulement très, très, très intéressant, mais c'est extrêmement important. Et je pourrais vous indiquer des tas de choses qui sont en train de se passer dans le monde maintenant, qui sont prophétisées dans la Bible, et qui indiquent les temps de la fin. Maintenant, nous ne savons pas quand Jésus va venir, ni même quand l'Antichrist va venir. Dieu seul le sait. Mais Jésus nous donne des indications pour savoir qu'au moins, c'est proche. Alors, il dit d'abord, faux Christ. Alors, les faux Christ se multiplient. Et les faux Christ ne sont pas seulement des gars comme le tel et tel gourou, le Christ de Montfavé, mais il y a le faux Christ des témoins de Jéhovah. Partout, 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 on retrouve ça. Le faux Christ des Mormons, le faux Christ des soi-disant enfants de Dieu, le faux Christ des... les sectes, vous en connaissez en quantité. Et ça se prolifère. Et le public est confus. Et d'ailleurs, lorsque nous allons taper sur la porte... Et on dit, monsieur, madame, on a quelque chose de fantastique, on vous apporte la vérité de Christ. Ah, on ne veut pas de secte ici, n'est-ce pas? on nous traite tous de sectes, parce qu'il y a eu tellement de sectes et de faux Christ qui ont proliféré. Et c'est difficile. L'évangélisation devient de plus en plus difficile. Mais moi, je crois qu'il faut viser les jeunes. Moi, je crois que votre génération est en la recherche de la vérité. Je crois qu'il y a des multitudes de jeunes en France qui ne demanderaient pas mieux que de savoir ce que nous savons. Alors que nous, les vieux, on est quelquefois tellement empoisonnés par les fausses idées qu'on a vécues et par l'amertume de la vie qu'on ne veut même pas entendre parler de ça. Bon, alors, Jésus parle de faux Christ, il parle de guerre et de bruit de guerre et de soulèvement, révolution, bouleversement, versets 6 et 7, et ensuite de famine et de tremblement de terre. Eh bien, des famines, n'en parlons pas. Je ne sais pas combien de millions, de dizaines de millions d'enfants sont en train de mourir dans certains pays aujourd'hui dans le monde, de faim, de petits squelettes. Et je ne sais pas pourquoi ici en Europe on n'arrive pas à faire plus pour eux. D'ailleurs, il y a certaines organisations chrétiennes, il y a une organisation évangélique en France qui s'appelle SEUL, je crois que c'est organisé par l'Alliance évangélique. Et je crois que c'est bien de les aider. Ils aident certains de ces pays sous-développés, et au lieu de donner l'argent simplement à une grande organisation qui va peut-être répandre le communisme ou autre chose, en le donnant à un organisme chrétien, ou en le donnant même à des missionnaires ou des chrétiens dans ces pays, on peut peut-être mieux assurer le bon usage de notre argent. En tout cas, il faut surtout prier pour cette question. Et les tremblements de terre, il y en a eu beaucoup ces dernières années. Il va y en avoir encore. Ensuite, verset 9 à 14, il parle de trois signes dans le temps. Il dit « alors » et il parle d'une persécution mondiale. D'ailleurs, dans la majorité des pays du monde, aujourd'hui, les chrétiens sont persécutés. Et je me demande pourquoi nous échapperions, pourquoi nous vivrions indéfiniment sans être persécutés, alors qu'en Occident, d'une façon générale, les églises sont assez blasées, embourgeoisées, paresseuses. On regarde beaucoup plus la télévision que la Bible. Comment voulez-vous que Dieu patiente indéfiniment? Et comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est parce que Dieu voit des gars comme vous ce soir. C'est ça qui l'intéresse. Et on regarde sa montre, et il se dit sans doute, ben, ça vaut la peine peut-être de donner encore 5 ans, 10 ans, 5, 15 ans, peut-être même 50 ans. Si on peut avoir encore une grande récolte d'âmes dans le monde, eh bien pourquoi pas? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu n'est pas fataliste. Dieu sait évidemment la fin depuis le commencement, il sait quand viendra la fin, toutes ces choses. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu agit en conséquence de l'attitude de l'homme. S'il voit que les hommes se repentent, comme Ninive à la prédication de Jonas, eh bien Dieu change son horaire. Il ne change pas son plan, mais il change son horaire. Et s'il voit que le peuple de Dieu le prend vraiment au sérieux, eh bien Dieu est souvent prêt à faire tout et n'importe quoi pour son peuple. Ensuite, une apostasie mondiale. Apostasie veut dire chute, égarement. Versets 10, 11, 12, on voit que la majorité des chrétiens du temps de la fin vont devenir tièdes, froids, vont tolérer le péché. Il y aura beaucoup de faux prophètes, fausses doctrines. Et il y en a beaucoup en France. Que Dieu vous en garde. Que Dieu vous en garde. Et l'iniquité se sera accrue. Il y aura beaucoup de péchés dans les églises. C'est vrai. Dans beaucoup de pays. Et puis, au verset 13 et 14, Jésus parle de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, et il dit que l'évangile sera prêché à toutes les nations. Donc malgré ce tableau sombre, c'est quand même une chose fantastique. Dieu va parachever l'évangélisation du monde. Comment? Je ne sais pas. Si Dieu ne peut pas, avec les méthodes actuelles, il va peut-être changer de méthode. Et peut-être que la méthode de dernière ressource sera justement une persécution de l'Occident qui obligera les chrétiens de ne plus compter sur la richesse et la protection de la police, mais à vivre réellement pour la propagation de l'Évangile. Vous savez, après le départ de Jésus de ce monde, il avait dit à ses apôtres, au moment de partir, il a dit « apportez l'Évangile à toutes les nations ». Et au lieu de le faire, ils sont restés à Jérusalem pendant quelques années, tous les apôtres, toute l'Église, tous les chrétiens, ils sont restés là à s'occuper d'eux-mêmes, et finalement, au bout de 4 ou 5 ou 6 ans, il y a eu tellement de bagarres et d'histoires entre eux que Dieu finalement envoyait une persécution qui les a dispersés partout. Et lorsque l'Église ne pense qu'à elle-même et se remplit le ventre, au lieu d'apporter le pain de vie au monde qui périt, finalement l'Église elle-même est trouvée avec tout ce problème. Et là, Dieu doit envoyer la persécution simplement pour disperser tout le monde. Et les gens, partout, ils allaient prêcher l'Évangile. Et c'est à ce moment-là que des églises ont commencé à naître dans toute la Palestine et dans tous les autres pays. Et certains chrétiens sont partis de Jérusalem, ils sont allés à Antioche, ils ont commencé même à prêcher l'Évangile à des non-juifs. Et finalement, Antioche a eu la plus grande église de tout le Moyen-Orient. Et c'est de là que l'apôtre Paul et Barnabas sont venus évangéliser l'Europe. Alors vous voyez, Dieu a beaucoup de moyens et de méthodes, mais Dieu est décidé de parachever l'évangélisation du monde et qu'il se serve de nous, d'une manière ou d'une autre. Et puis, verset 15 à 28, des signes en Israël, mais tout à la fin, au moment de la destruction de Jérusalem. Et la profanation du temple, et le règne de l'Antichrist, et la bataille d'Armageddon. Mais je ne vais pas rentrer dans cela ce soir. Et finalement, verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, donc en Israël, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, des signes en Israël tout au temps de la fin, Israël assiégé par les armées étrangères, l'Antichrist qui profane le temple, et puis détresse telle qu'on n'en a jamais vue, encore plus terrible certainement que en l'année 70, et versets 23-24, des faux Christ qui font des miracles terribles. Et verset 28, Israël entouré d'armées. Le cadavre, c'est Israël incrédule, les aigles sont les armées païennes. Et verset 29, aussitôt après ces jours de détresse, il va y avoir une obscurité partout. Je ne sais pas s'il y aura quelque part une guerre nucléaire et que si l'atmosphère sera tellement polluée que finalement on ne verra plus le soleil, la lune, et les étoiles tombent du ciel, moi je crois que ça parle d'un bombardement absolument inimaginable, ou peut-être une immense tempête de météorites qui tomberont sur la terre, et ensuite le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et puis tout le monde voit Jésus-Christ qui vient en gloire. Je pense personnellement que Dieu va nous enlever, nous les vrais chrétiens, de ce monde avant les pires de ces catastrophes. Nous aurons certainement à souffrir à cause de Jésus, comme les chrétiens dans presque tous les pays et dans toutes les générations ont dû généralement souffrir pour leur foi. Mais je ne crois pas que Dieu pense laisser son Église, l'épouse de Christ, sur la terre pendant ce règne terrible de l'Antichrist et pendant toutes ces catastrophes du temps de la fin. Je crois que Dieu va nous enlever, et c'est après que la colère de Dieu sera déversée sur les nations. Et les nations vont finalement comprendre la différence entre le gouvernement de Satan et le gouvernement de Jésus-Christ. Et au bout de quelques années, les nations en auront assez. Je crois que de partout, il y aura des cris qui montrent vers le Créateur, envoie-nous Jésus-Christ. Et nous savons par plusieurs prophéties de la Bible que presque toute la nation d'Israël va être détruite pendant ces événements épouvantables. Il ne restera qu'une poignée, peut-être littéralement, 144 000, c'est le chiffre indiqué dans le livre de l'Apocalypse, mais qui vont tous se tourner vers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ va revenir. Et il va revenir, ses pieds vont se poser sur la montagne des Oliviers. Vous savez, quand il est parti il y a 2000 ans, ses pieds étaient sur la montagne des Oliviers. C'est de là qu'il est disparu, dans le ciel. Et je crois qu'au bout de ces 2000 ans, une fois qu'Israël finalement l'appelle et dit « Nous croyons en toi, tu es notre Christ, notre Messie », il va dire, bien, j'y suis, ça fait 2000 ans que j'attends, au même endroit. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas appelé avant? Et Israël, or les prophéties de l'Ancien Testament parlent d'un Israël qui à ce moment-là connaîtra Dieu, tout le monde connaîtra Dieu, et nous lisons que les hommes viendront des quatre extrémités du monde à Jérusalem pour apprendre, pour voir si possible Jésus-Christ lui-même, et pour entendre la prédication de la parole. Les Juifs maintenant convertis avec toute la connaissance, avec toute l'intelligence, toute la connaissance de l'histoire de l'Ancien Testament, là à prêcher, à expliquer l'évangile, à dire pendant 2000 ans, nous avons rejeté notre Messie. Pendant 2000 ans, nous avons été dispersés parmi toutes les nations, on nous a craché dessus, on a été mal vus, persécutés, on n'avait pas de pied à terre. Et encore, on ne comprenait pas pourquoi. Et maintenant, nous comprenons, nous nous sommes repentis. Et voilà, notre maître est ici. Il va vous dire deux mots dans un petit instant. En attendant, oui, regardez. Et les Juifs vont reconstruire le temple. Ils vont recommencer des sacrifices. Non pas pour remplacer le sacrifice de Christ. Mais les prophètes de l'Ancien Testament disent qu'il va y avoir un temple et des sacrifices à cette époque-là. Vous savez, la nuit avant que Jésus ne parte de ce monde, il a dit à ses disciples, quand il a institué la Sainte Cène, « Faites ceci en mémoire de moi. » Et l'apôtre Paul dit, ajoute, « jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc quand il reviendra, on n'aura plus besoin de faire ça. On n'aura plus besoin de se souvenir de lui puisqu'on sera avec lui. Mais alors, du fait qu'au retour du Christ, on ne célèbre plus la Sainte Cène, et Paul dit qu'en faisant la Sainte Cène, nous annonçons la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne. La Sainte Cène, c'est une prédication. Ce matin, quand on a fait la Sainte Cène, on a expliqué que ça représente pour nous le corps de Jésus, brisé pour nous, son sang versé pour nous, représenté par le vin. Et ça nous rappelle, ça nous fait comprendre. C'est une prédication de l'Évangile. C'est un défi à tout le monde d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais alors, une fois que nous ne serons plus là, nous serons avec Christ dans sa gloire, et nous aurons à régner sur ces nations, les nations qui seront alors sur la terre, qui auront échappé à toutes ces choses, quand ils viendront à Jérusalem pour adorer le Seigneur Jésus-Christ, ils entendront ces prédications qui leur expliqueront des choses. Et puis, les gens qui apportent un sacrifice, les Juifs en particulier, qui apporteront le sacrifice, eh bien, j'imagine les prêtres, les vitrelins, avec une magnifique musique, et en chantant les psaumes de David, et d'une infinité de nouveaux cantiques qu'ils auront composés, et que même des cantiques de tous les coins de la terre. Et puis, avec cette prédication, ils disaient, mais vous voyez cette bête dans la carcasse, vous voyez le sang qui a été versé. Eh bien, ça c'est pour rappeler la mort de Jésus-Christ, sur cette même montagne de Jérusalem, il y a 2000 ans. Et nous n'avons plus besoin de le faire pour expier nos péchés, mais nous ne voulons pas oublier. Alors nous le faisons pour nous rappeler et pour rappeler à tout le monde que c'est uniquement par le sang de Jésus-Christ que nous entrons dans le royaume de Dieu. Oh, j'attends ce jour, vous savez. Alors Jésus, dans ce chapitre, nous donne quelques indications pour savoir quand ce jour arrivera. Demain, si possible, je traiterai un peu le reste de cette prophétie, enfin, selon que Dieu me conduise. Jésus nous donne quelques indications extrêmement intéressantes. Eh bien, que Dieu nous aide, que Dieu nous prépare. Je crois que nous pouvons vraiment affirmer que Jésus-Christ vient bientôt. On m'a posé une question l'autre jour lorsque je parlais de Matthieu 13, où Jésus parle en parabole. Je n'ai pas répondu à cette question. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole puisqu'il ne comprenait pas? Pourquoi n'as-tu pas choisi de ne rien dire tout simplement? Et je crois que la réponse à cette question, c'est tout simplement parce que Dieu, l'attitude de Dieu, dépend de l'attitude de l'homme. Et si l'homme ne veut pas comprendre, eh bien, dit bon, alors tu ne comprendras pas. Mais Dieu continue quand même à parler. Et ceux qui veulent comprendre, peuvent comprendre. Alors Jésus a enseigné en parabole, tout ça en Israël qui voulait vraiment comprendre, il pouvait comprendre. Mais ceux qui ne voulaient pas ne comprenaient pas. De toute façon, pour comprendre ces paraboles, il fallait qu'on vienne à Jésus. Les disciples n'ont pas compris lorsqu'il a parlé la première fois en parabole. Mais ils sont venus le trouver. Et justement, Dieu parle en parabole très souvent, et même à ses disciples, parce que Jésus parlait tout aussi bien aux disciples qu'à la foule inconvertie, tout simplement pour qu'ils apprennent directement de lui. Il y a des choses que Dieu dit clairement, il y a d'autres choses que Dieu dit en forme de parabole, que Dieu dit de façon symbolique, et c'est à nous de découvrir ça auprès de Dieu. Et par exemple, dans l'Ancien Testament, justement dans le livre du Lévitique, avec toute cette histoire de sacrificature, sacrifice, le sang, etc., le levain, eh bien, à première vue, tout ça c'est une parabole, on n'y voit pas d'utilité, mais il faut demander à Dieu de nous ouvrir les yeux, et effectivement nous trouvons des richesses insoupçonnées. Comme dans le livre de l'Exode, l'histoire du tabernacle, avec les deux compartiments, avec la lampe, la table de pain, etc., avec le voile, avec le lieu très saint, avec le propitiatoire, avec l'arche qui contient les deux tables de la loi, avec la cour extérieure, avec le bain où les sacrificateurs devaient se laver avant même d'offrir les sacrifices sur l'autel, et puis l'autel extérieur où le sacrifice était offert pour la purification du péché, et l'autel intérieur où on pénétrait dans le sanctuaire de Dieu avec le sang déjà offert sur l'autel et avec le parfum du nom de Jésus. Mais dans tout cela, il y a un symbolisme fantastique qui nous aide à comprendre tout le processus du salut, du pardon de Dieu, de la vie de prière, de la vie d'études bibliques, la vie même d'église, et puis le voile. Il faut passer à travers le voile jusque dans le sanctuaire. L'Épître aux Hébreux nous enseigne que pour le juif, généralement, le voile était bloqué totalement son accès dans l'intimité avec Dieu. Il pouvait arriver devant le tabernacle, et même les prêtres pouvaient entrer dans le Dieu Saint, mais ils ne pouvaient pas passer au-delà, sauf une fois par an, sauf un sacrificateur, et lui en tremblant. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que quand Christ est mort sur la croix, ce voile a été déchiré. Comme le corps du Christ a été déchiré sur la croix, de même le voile qui sépare le peuple de Dieu de la face de Dieu à l'intérieur, du lieu très saint, a été déchiré. Lorsque Jésus était sur la terre, c'était Dieu, avec toute sa splendeur, toute sa justice, sa terrible beauté, ce feu dévorant, mais qui était voilé par la chair d'un homme, le visage d'un homme. Et les hommes pouvaient contempler Dieu à travers le visage de Jésus. Mais nous, depuis que le sang de Jésus a été versé, depuis que son corps a été déchiré, nous pouvons pénétrer directement dans le lieu très saint où nous trouvons notre Sauveur, le Seigneur Jésus, et Dieu nous révèle sa face. Vous savez, il y a des choses fantastiques à découvrir dans la Bible tout entière. Mais naturellement, ce n'est pas simplement avec l'intelligence humaine qu'on comprend. Et Dieu justement a placé tout un tas d'enseignements, si vous voulez, un peu mystérieux dans la Bible, pour que nous allions chercher auprès de lui l'explication. Alors, les paraboles étaient pour les inconvertis, et Dieu ne voulait pas que... Enfin, Dieu a tout simplement refusé d'expliquer ces choses aux pharisiens qui ne voulaient pas comprendre. Bon, vous ne voulez pas comprendre, alors ne comprenez pas. Mais tous ceux qui voulaient comprendre, mais il fallait qu'il vienne au Seigneur lui-même pour avoir l'explication. Maintenant, avant de passer à Matthieu 24, 25 à nouveau, j'aimerais revenir à Matthieu 13 pendant quelques instants. Je n'ai traité que la première parabole l'autre jour, mais j'ai dit qu'il y en a sept. Et j'ai dit que dans ce chapitre, le Seigneur Jésus nous enseigne surtout une vérité, la différence entre la vraie et la fausse Église, et entre le vrai chrétien et le faux chrétien. Et nous voyons que dans la première parabole, tout véritable chrétien porte du fruit, le fruit de l'amour. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie du vrai chrétien. Alors, dans le faux converti, ça n'aboutit à rien. Finalement, tout disparaît. La foi n'est pas enracinée, il y a un travail superficiel, et puis tout disparaît dès qu'il y a des problèmes ou de la persécution. Bon, alors on ne veut pas payer le prix. Et ensuite, dans la deuxième parabole, donc au verset 24 de Matthieu 13, Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. » Vous savez, l'ivraie ressemble beaucoup au blé. La tige, la feuille ressemble beaucoup. Il faut attendre que ça se développe. C'est à la moisson qu'on voit la différence, n'est-ce pas ? L'ivraie, évidemment, c'est une mauvaise herbe. Et l'homme et cet ennemi s'en alla. Et lorsque l'herbe poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur que qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croire ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans le grenier. Et puis, plus bas, il nous donne l'explication. Verset 36, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Et ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Et il répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, donc c'est Jésus. La semence, ce sont les fils du royaume. » Vous remarquez, il y a une progression dans le symbolisme. Dans la première parabole, la semence, c'est la parole de Dieu. Dans la deuxième parabole, la semence, c'est le résultat de la parole de Dieu, donc les chrétiens, les vrais chrétiens, les enfants du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin, et qui ressemblent à première vue, drôlement, aux chrétiens. Ce sont de faux chrétiens. Il y a même, enfin, une certaine ressemblance, mais c'est complètement faux. Et le diable met ça à côté du vrai chrétien simplement pour semer la confusion. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable, et la moisson, c'est la fin, non pas la fin du monde, comme dans certaines versions, mais la fin du siècle. La fin du monde, c'est après les mille ans de règne de Christ, c'est plus loin encore, mais la fin du siècle, c'est le retour de Jésus-Christ. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du siècle. Donc, avant le retour de Jésus-Christ, il va y avoir un grand tri dans l'Église, dans le monde entier. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité et les jetteront dans une fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors là, Jésus enseigne que, bon, Jésus-Christ jette la semence et ça commence à pousser. Et puis l'ennemi, le diable, vient exprès semer la pagaille. Il introduit de faux chrétiens dans l'Église. Il a de fausses conversions. Et au début, on ne s'en aperçoit pas. Et naturellement, si la parole de Dieu n'est pas systématiquement enseignée, et si on ne prie pas tous ensemble, s'il n'y a pas cette lumière spirituelle, si Christ n'est pas manifeste au milieu de cela, il est facile aux faux convertis de rester dans l'Église. Et en fin de compte, ils mettent le trouble, la pagaille, le péché est introduit dans l'Église. Et c'est exactement ce qui est arrivé après l'époque des apôtres, et surtout au IVe siècle, lorsque l'Église s'est alliée avec l'État de l'Empire romain, est devenue l'Église officielle, la religion officielle de l'Empire romain, et puis toutes les impuretés du paganisme et du péché du monde sont entrées dans l'Église, n'est-ce pas? Mais ce processus a commencé déjà avant, pendant les trois premiers siècles, petit à petit, le diable commençait à introduire de faux enseignements et de faux convertis dans l'Église. Il a fallu que Dieu purifie l'Église en permettant de grandes persécutions de temps en temps. Et là, les faux chrétiens décrochaient, et il n'y avait que les vrais qui tenaient debout devant la persécution féroce des empereurs romains. Alors, et c'est, je crois, la raison pour laquelle Dieu permet de temps en temps dans tous les pays des persécutions. Et ça effectue une certaine purification. Mais, évidemment, à partir du IVe siècle, l'ivraie a pratiquement noyé le blé. Et pendant plusieurs siècles, pendant tout le Moyen-Âge, la vérité biblique est pratiquement disparue de la chrétienté de l'Europe. Il a fallu, comme je l'ai dit l'autre jour, que des hommes de foi redécouvrent la Bible et la traduisent dans les langues européennes pour que tout le peuple puisse connaître la vérité. Et c'est cela qui a fait un grand tri. Mais malheureusement, il y a eu là encore de grandes persécutions. Ces hommes ont été souvent brûlés vifs, emprisonnés, égorgés, étranglés, torturés de toutes sortes de manières. Et Dieu effectuait un certain tri. Malheureusement, dans certains pays, comme j'ai dit l'autre jour, la redécouverte de la Bible a été complètement extirpée pendant plusieurs siècles. D'ailleurs, quand j'étais jeune en Espagne, la Bible était un livre interdit. Et dans beaucoup de pays catholiques, la Bible était un livre interdit. Depuis le Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle, et ce n'est vraiment qu'à partir de 1942, lorsque le pape Pie XII, pendant la guerre, a écrit une lettre encyclique, c'est-à-dire une lettre à diffuser partout, dans laquelle il disait que tous les catholiques doivent lire la Bible, que tous les curés doivent lire et enseigner la Bible dans les églises. Vous savez, je ne sais pas comment ce miracle est arrivé, mais il y a peu de catholiques encore aujourd'hui qui sont au courant de cette lettre encyclique. Moi, j'en ai un exemplaire, c'était publié par la Bonne Presse à Paris, en traduction française. Évidemment, c'était écrit en latin à l'origine. Mais moi, j'ai beaucoup utilisé cette lettre encyclique pour montrer à certains catholiques qui restent un peu bigots et fanatiques, qui disent « Oh, la Bible, il ne faut pas y toucher, ça vient de l'ennemi, etc. » pour le prouver que même leur pape dit qu'il faut lire la Bible et l'enseigner dans les églises. Alors, depuis ce moment-là, la Bible a commencé à pénétrer dans les églises catholiques. Et il y a eu un véritable renouveau évangélique dans l'église catholique, dans une certaine mesure. Et c'est très dommage qu'il n'y ait pas eu assez de vrais chrétiens capables d'utiliser cette ouverture pour apporter plus de lumière à ces catholiques qui découvraient la Bible. Ensuite, le mouvement charismatique a ramassé tout cela et l'a plutôt détourné de l'étude de la Bible vers la recherche d'expériences extatiques et mystiques, langues inintelligibles, etc. C'est dommage. Et le diable fait tout son possible pour faire dévier un réveil spirituel. Dès qu'il y a un réveil, le diable essaie d'introduire une faille, une doctrine qui n'est pas juste, et finalement ça dévie dans une impasse. Quand on étudie toute l'histoire de l'Europe, on voit que ça s'est arrivé beaucoup, beaucoup de fois. Et finalement, quelquefois, l'ennemi peut se servir de ce mouvement, finalement, pour contrer la vérité. Mais nous voyons que le diable, d'une manière ou d'une autre, en introduisant de fausses doctrines, de faux mouvements, et en implantant même de faux convertis, au milieu d'une action du Saint-Esprit, sème la confusion et la pagaille et finalement fait dévier tout cela dans une impasse ou dans une fausse direction. Et le Seigneur Jésus, dans son enseignement à ses apôtres ce jour-là, eh bien, il enseignait tout cela. C'était extraordinaire comme Jésus a donné à ses apôtres une vision de toute l'œuvre de Dieu par la suite. Il a dit, méfiez-vous, quand vous allez prêcher la parole, il y aura, comme dans la parole du semeur, de faux convertis. Alors méfiez-vous. Et la seule manière de rectifier cette situation, c'est de prêcher toute la parole intégralement et de faire connaître toute la parole de Dieu et de connaître la lumière de la face du Christ et la nécessité de marcher par la plénitude du Saint-Esprit pour que toute erreur soit constamment mise en lumière et que Dieu effectue une purification perpétuelle. Évidemment, ce qui purifie le plus, c'est la présence du Christ et la parole de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, dans toute l'œuvre que je fais pour le Seigneur, j'insiste terriblement sur la nécessité de faire connaître la Bible à tous les chrétiens personnellement. Il ne suffit pas simplement d'aller écouter une prédication une ou deux fois par semaine. Il ne suffit pas de prendre la Bible et de la lire quelques fois, tous les deux, trois jours, etc. Si vous ne prenez pas le temps, si vous n'avez pas assez de discipline pour travailler intelligemment les choses de Dieu et lire toute la Bible de façon suivie, systématique, toute l'année, et ensuite recommencer, et toute votre vie, continuer à faire cela, eh bien, le diable peut finalement vous embobiner. C'est ça le problème dans l'Église. Par exemple, depuis 25 ans, il y a eu, un peu partout dans le christianisme mondial, un désir de revenir à la vérité primitive de l'Église, et même une certaine redécouverte de la Bible, même parmi les protestants, et surtout parmi les catholiques. Et malheureusement, cette recherche n'a pas toujours abouti. Ça aboutit souvent à de faux objectifs, tout simplement parce qu'on n'enseignait pas la nécessité de lire toute la Bible, personnellement, chacun. Et le résultat, c'est que dès qu'il y avait quelqu'un qui avait des connaissances ou qui avait même fait une expérience peut-être même très authentique de Dieu, mais qui n'avait pas été vraiment formé par le Saint-Esprit, par une connaissance de la Bible tout entière, alors il prêchait beaucoup de choses qui étaient bien, et puis finalement le diable a pu quand même introduire une déviation dans sa pensée. Et le résultat, c'est que, parce qu'il avait par exemple une personnalité très puissante, il pouvait finalement entraîner des foules de gens après lui dans une fausse doctrine. Et la seule chose qui peut assurer l'œuvre de Dieu dans les années qui viennent et au milieu de vous, si c'est tous les chrétiens, si c'est vous tous, vous vous donnez la peine d'être à l'écoute de Dieu tous les jours de votre vie et pour entendre tout ce que Dieu veut vous dire à travers la Bible. Je dois dire aussi ceci, que je fais une distinction entre la lecture de la Bible et l'étude de la Bible. Les deux choses, évidemment, vont ensemble. Je connais beaucoup de mouvements d'églises et même d'œuvres missionnaires qui mettent beaucoup d'accent sur l'étude de la Bible. Je parlais l'autre jour par téléphone avec le leader d'un groupe, d'une équipe de formidables jeunes chrétiens, il faut dire qu'ils sont étrangers, mais qu'ils travaillent en France, et ils me disaient qu'ils étudiaient beaucoup la Bible, beaucoup la doctrine, etc. Mais je lui dis, oui, mais est-ce que tu enseignes aux gens de lire toute la Bible? Et il n'a pas compris. Il a dit, ah, tu sais, on étudie toutes les doctrines, etc. Oui, mais j'ai dit, est-ce qu'ils lisent toute la Bible? Parce que sans cela, ils ne peuvent pas contrôler ce que tu leur enseignes. Alors, je considère que la base de notre connaissance de Dieu consiste dans une lecture de toute la Bible. Et du fait que nous sommes tous lettrés, nous avons tous une certaine instruction, en France, c'est possible partout. Dans certains pays, ce n'est pas possible puisque les gens ne sont pas lettrés. Il faut même leur apprendre l'alphabet et l'écriture pour qu'ils apprennent un petit peu ces choses. Et il faut leur apprendre des tas de choses par cœur. Mais pour nous, c'est très possible puisque nous avons tous la Bible. Alors, à mon avis, on ne peut pas étudier un sujet qu'on ne connaît pas. On ne peut pas étudier la Bible sérieusement si on ne la connaît pas. Faire des études sur la Bible sans savoir tout ce qu'il y a dans la Bible, c'est finalement bâtir peut-être sur un fondement déséquilibré. Et c'est ce qui arrive dans énormément d'églises et de mouvements chrétiens. Et ce qui peut donner un équilibre et une stabilité, c'est une connaissance de toute la parole de Dieu. Vous savez, ce matin, je lisais dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, je me dis, oh, je vais lire autre chose, mais j'ai repris quand même ma lecture normale, parce que je relis toute la Bible chaque année, approximativement, systématiquement, en faisant les deux testaments parallèlement, et en commençant par Genèse et Matthieu. Et ce matin, je relisais certaines choses dans la loi de Moïse, mais c'est fantastique, j'ai lu ça, je ne sais pas combien de fois, mais ce matin, ça m'a frappé d'une façon tout à fait nouvelle. Et j'ai remarqué, par exemple, que si on étudie, par exemple, beaucoup un sujet, pendant 2 ou 3 mois, on étudie uniquement la prophétie, ou uniquement, la doctrine de l'Église, on peut très facilement oublier des choses très nécessaires. Par exemple, j'ai connu des cas de personnes qui, par exemple, ont été tellement préoccupées par la prophétie, la bête, l'antichrist, etc. Ils ont passé des semaines et des semaines à n'étudier que ça. Mais s'ils avaient fait leur lecture normale de tous les jours, Dieu aurait pu contrebalancer ce déséquilibre. Par exemple, si tu es tout embrouillé dans l'histoire de la bête, et ce matin tu es dans le livre des Proverbes, et tu lis celui qui se met en colère, pêche, et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, et ça nous ramène sur terre, n'est-ce pas? Et Dieu peut nous dire, mais tu te souviens, hier soir, tu t'es irrité contre quelqu'un. Alors, en lisant toute la Bible systématiquement, Dieu peut nous corriger tout le temps. Et puis, il y a cet avantage, si un jour, vous faites des études vraiment approfondies de la Bible, et s'il y a un gars comme moi qui est là à vous enseigner, dire, bon, alors voilà ce que Dieu dit, si je dis quelque chose de faux, il n'y a pas de docteur imparfait sur la terre, il y a toujours des failles, nous sommes tous imparfaits, il n'y a que Jésus qui est parfait. Si vous ne connaissez pas toute la Bible, ça peut passer. Mais si vous connaissez toute la Bible, le Saint-Esprit peut tout de suite vous rappeler un passage ou un verset qui contredit ce que je dis. Et vous voyez clair. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'encourage pas les tout jeunes chrétiens d'aller tout de suite en école biblique. J'ai connu beaucoup de jeunes chrétiens, 17, 18, 19 ans, ils sont appelés à servir Dieu, ils vont dans une école biblique où ils apprennent beaucoup de choses très valables, très intéressantes, mais on leur met quand même des lunettes un petit peu vert, jaune, rouge, je ne sais pas quoi, et ensuite ils en sortent sans une connaissance de la Bible complète, mais ils ont été endoctrinés et ils lisent pendant toute leur vie la Bible avec des lunettes coloriées, n'est-ce pas? On leur dit comment il faut comprendre certaines choses avant que vous ne les connaissiez. Alors, si vous connaissez toute la Bible, le diable peut beaucoup plus difficilement fausser votre compréhension des choses. Et si vous lisez toute la Bible toutes les années, le Seigneur peut toujours vous corriger et vous enseigner. Et il faut dire que même, moi je reconnais qu'après 55 ans à peu près de vie avec Christ, et après 50 ans d'études et de lecture systématique de la Bible, encore maintenant, j'ai besoin que tu me corriges tous les jours. On n'arrive jamais à la totalité. Aucun de nous ne peut se dire, ben, j'y suis, n'est-ce pas? Nous sommes tous des débutants, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous des ignorants, et nous avons besoin que Dieu nous corrige sans arrêt. Alors cette lecture systématique de la Bible, c'est la base. Ensuite, on peut étudier autant qu'on veut. Ça, c'est le fondement. Et puis l'étude, c'est ce qu'on bâtit dessus. Il y a 36 façons d'étudier la Bible. Vous pouvez étudier les grands thèmes, par exemple le retour du Christ dans toute la Bible, ou bien l'expiation du péché dans toute la Bible, ou bien l'œuvre de Satan dans toute la Bible, ou bien le peuple de Dieu dans toute la Bible, ou vous pouvez par exemple étudier les grands hommes de Dieu dans la Bible, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, l'histoire d'Ésie, d'Élie, d'Ésaïe, de l'apôtre Paul, de Jean. C'est absolument passionnant tout cela. Vous pouvez étudier toute l'histoire d'Israël, l'évolution de la révélation de Dieu dans tout le peuple d'Israël. Et puis, le commencement de l'Église. Vous mettez les actes des apôtres et les épîtres de Paul et de Pierre tous ensemble pour voir exactement comment l'Église primitive s'est développée et comment nous pouvons, nous, bâtir sur ce modèle. Il y a énormément de manières d'étudier la Bible, mais il ne faut pas négliger ce fondement qui est la lecture de la parole de Dieu. Enfin, je déraille toujours dans mon sujet, parce que il y a des petites digressions qui me semblent souvent utiles et nécessaires. Mais j'aimerais revenir pendant quelques minutes à Matthieu 13. Jésus donc enseigne à ses apôtres, attention, il y aura de faux convertis. Ensuite il dit, le diable mettra exprès dans l'église de faux chrétiens, pour mettre la pagaille. Et qui finiront quelquefois par devenir de faux docteurs et de faux prophètes dans l'Église. Ensuite, il enseigne, chapitre 13 toujours, et verset 31, à la troisième parabole, la parabole du grain de seigle, ou de moutarde. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de seigle qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est le plus petit de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que tous les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Eh bien, un grain de moutarde, ce n'est pas le plus petit grain, mais ça produit la plus petite plante. Vous savez, un moutardier, c'est une petite plante à peine 2 cm de haut. Et normalement, ça ne pousse pas plus loin que ça. Ça reproduit le grain de moutarde, et le moutardier est appelé à se multiplier à l'infini, à remplir le champ de petits moutardiers, n'est-ce pas? Mais alors Jésus dit ici que normalement, donc, le grain de moutarde doit créer une toute petite plante. Mais il arrive par une anomalie que parfois ce moutardier pousse trop loin et au lieu de se reproduire à droite et à gauche, devient tout un arbre. À tel point que même les oiseaux peuvent faire leur nid dans les branches. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'étais jeune, j'entendais souvent dans des églises... En Angleterre surtout, où je faisais mes études, j'entendais dire, ça veut dire que l'Église de Christ va devenir tellement grande que finalement, elle va remplir toute la terre toute entière, et finalement, enfin, tout le monde deviendra chrétien. Ça, c'est absolument faux. C'est tout le contraire de ce que Jésus enseigne. Et ce développement est un développement complètement faux. L'Église primitive, pendant les 2 ou 3 premiers siècles, c'était comme le moutardier. C'était de petits groupes qui se réunissaient par ça, par là, et qui se reproduisaient, et qui finalement a rempli l'Empire romain de petits groupes, de petites églises. D'ailleurs, à cette époque-là, on n'avait pas de bâtiment, on n'avait pas de cathédrale, on n'avait pas de chapelle, etc. Parce que pendant les 3 premiers siècles, la loi romaine interdisait aux chrétiens d'avoir un lieu de culte. Alors ils se réunissaient dans les maisons, dans les bois, et pendant les temps de persécution, dans les caves, dans les souterrains, et n'importe où, dans la forêt. Mais il n'y avait pas de bâtiment qu'on appelait église. Ça c'est venu après l'union de l'Église avec l'État, après le 4e siècle. Mais alors, au 4e siècle, lorsque l'État s'est uni avec l'Église pour former une grande Église universelle, catholique veut dire universelle, n'est-ce pas ? Officiel, avec la protection de l'État et avec des revenus venant de l'État, donc une église matérialiste en quelque sorte, à partir de ce moment-là, l'Église est devenue comme un grand arbre modelé selon l'administration, le système administratif romain, comme l'Empire romain était divisé en diocèses, et avait toute une hiérarchie, toute une structure, n'est-ce pas? Eh bien, l'Église s'est modelée sur le système de l'Empire romain. C'est devenu un grand arbre, avec beaucoup de ramifications. Et Jésus dit que même les oiseaux pouvaient loger dans les branches. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans la première parabole, les oiseaux qui viennent manger la semence et empêcher qu'elle s'enracine dans le cœur de ceux qui entendent, ce sont les démons, le diable. Ça veut dire que Jésus prévoyait qu'un jour, l'Église, au lieu de se reproduire à l'infini, remplir la terre entière de petits moutardés, en quelque sorte, de petites églises, allait mettre toutes ses énergies à construire un grand système administratif avec tant de ramifications qu'il serait facile aux démons de venir loger dans l'Église. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et finalement, au 5e, 6e, 7e siècle, on commençait à adorer des statues, à adorer la Vierge, à rendre un culte aux saints, et alors qu'autrefois, on faisait tout cela à la grande déesse païenne, et à toutes les divinités païennes, à tous les dieux que les Grecs appelaient démons, n'est-ce pas, l'Église a commencé à en faire autant. C'est incroyable. Alors Jésus prévoit tout cela, il avertit ses apôtres, il dit voilà, faites attention, je vous le dis d'avance, mais ce qui peut vous protéger, c'est une connaissance de la parole de Dieu. Et mise en lumière de toutes choses devant la face de Dieu. 4e parabole, Matthieu 13, verset 33. Le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Je n'ai pas le temps ce matin d'entrer dans le détail dans ces paraboles, mais il y a énormément de choses à voir. Jésus a tiré le symbolisme du grand arbre de Daniel, chapitre 3 ou 4, je ne m'appelle plus, où Nebuchadnezzar a une vision et il voit un grand arbre, et ce grand arbre, c'est Babylone. C'est de là que Jésus a tiré ce symbolisme. Et maintenant, il tire un symbolisme de, je crois, du 5e chapitre, 4e chapitre de Zacharie, à la fin de l'Ancien Testament. Oui, le 5e chapitre, vous pouvez voir vous-même, mais on n'a pas le temps de regarder ce matin. Cette femme, dans la prophétie de Zacharie, cette femme s'appelle l'iniquité. Le levain dans l'Ancien Testament était toujours un symbole de corruption, de fausse doctrine, d'erreur. Et les Israélites n'avaient pas le droit, pendant la semaine de la Pâque, de faire du pain avec du levain. Il ne fallait même pas avoir du levain dans la maison. C'était un symbolisme, Moïse a interdit le levain pendant cette époque-là, simplement pour rappeler aux Juifs que quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'avaient même pas le temps de mettre du levain dans leur farine, puisqu'ils ont été chassés au milieu de la nuit, lorsqu'ils ont été délivrés de Pharaon. Mais de même, Moïse a voulu faire comprendre par ça que comme le levain est une sorte de pourriture qu'on introduit dans la farine pour faire lever la pâte, évidemment, une fois que c'est cuit dans le feu, il n'y a pas de problème, ce n'est plus pourri, mais quand même, c'est une sorte de corruption qu'on introduit dans la pâte pour faire lever la pâte. Et c'est comme une sorte de... enfin, une image de l'erreur que le diable introduit dans la farine pure qui vient du blé, qui vient du vrai chrétien, de la vraie Église, n'est-ce pas? Et Jésus enseigne par là que cette femme qui n'est autre chose que Babylone, le système qui est venu de Babel et de Babylone et qui s'est répandu dans le monde entier, dans toutes les mythologies, dans toutes les religions païennes de l'Antiquité, finalement allait introduire dans l'Église sa fausse doctrine, jusqu'à ce que tout un passe soit la vue. Et effectivement, au Moyen-Âge, tout le christianisme était pénétré de cette doctrine. Il y avait plusieurs fausses doctrines. Premièrement, qu'on était régénéré par une cérémonie matérielle, le baptême. Et au bout de quelques siècles, on commençait à baptiser les petits-enfants, et pas ceux qui faisaient une profession de foi en Christ. Et au lieu de baptiser, c'est-à-dire de plonger dans l'eau, on aspergeait quelques gouttes sur le fond. Et par une cérémonie quasi magique, on prétendait qu'on pouvait régénérer les gens. Et le prêtre prononçait une formule, je déclare cet enfant régénéré. C'était dans la liturgie. Ça, c'est une des erreurs. Une autre erreur, c'est qu'on interdisait aux chrétiens en général de prier vraiment directement Dieu, il fallait qu'il passe par le curé, par la Vierge, par les saints, etc. Et finalement, on enseignait que Jésus-Christ, refusé les prières des gens parce qu'il avait été crucifié à la place et il était toujours en colère, donc il fallait que sa mère, Marie, adoucisse sa colère pour que finalement la prière puisse passer à Dieu le Père, n'est-ce pas? Vous voyez comme le diable a su introduire dans la farine pure de la parole de Dieu et dans la vraie Église tout un tas d'erreurs. Je pourrais vous introduire pendant 2 ou 3 ou 4 jours, au moins, avec une documentation concernant la manière dont l'Église a complètement changé de caractère pendant ces premiers siècles et comment toutes ces erreurs de l'Antiquité ont été introduites dans le christianisme sous une terminologie biblique, mais étant vraiment des doctrines venant directement de Babylone de l'Antiquité, de la capitale de Satan. Alors Jésus avertit ses apôtres, il a dit attention, attention, je vous dis d'avance. Et la seule manière d'éviter tout cela et de rectifier, c'est par la parole de Dieu. Effectivement, lorsque au XVIe siècle, l'Europe a redécouvert la Bible, il y a eu des millions de gens qui sont revenus à la vérité, à la source. Ils ont vu l'erreur, alors que pendant des générations, ils avaient vécu dans les ténèbres. Et puis, la cinquième parabole, verset 44, dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a, il achète le champ. » Là, je crois qu'il y a peut-être 2 explications. Premièrement, le champ, c'est le monde, comme dans la deuxième parabole, le trésor caché dans le champ, c'est la vraie Église. Et l'homme qui trouve ce trésor, c'est Jésus-Christ, qui vend tout ce qu'il a, même il donne même sa vie, il achète le champ, il verse son sang pour le monde entier, mais non pas pour acheter le champ tellement, et c'est pas ça qui l'intéresse, mais c'est le trésor, pour avoir son vrai peuple qu'il veut sortir de ce champ et prendre pour lui. Mais il y a une deuxième explication de cette parabole. Après donc la quatrième parabole, lorsque la femme a fait lever toute la pâte avec sa fausse doctrine, lorsque l'Église a été complètement corrompue, la seule manière de redécouvrir la vérité, de revenir à la source, de trouver ce trésor qui a été si caché, enterré par la grande Église du Moyen-Âge, c'était de vendre tout ce qu'on avait. Et ces hommes merveilleux du 16e, enfin du 15e, 16e, 17e siècle, qui n'ont pas eu peur d'aller en prison, d'être brûlés vifs au bûcher, afin de nous redonner la Bible, ces hommes, ils ont vraiment tout vendu, ils ont tout donné pour redécouvrir ce trésor et pour nous le transmettre à nous, et que nous soyons dignes de leur sacrifice. La sixième parabole, c'est... Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Là encore, cet homme, c'est Jésus-Christ, la perle qu'il a trouvée, c'est sa vraie Église, il a tout donné pour l'avoir. Mais de même, il y a une deuxième explication, à mon avis, à l'époque de la Réforme, et même après, alors que le protestantisme lui-même commençait à dérailler dans le libéralisme et la crédulité, il a fallu que le vrai peuple de Dieu redécouvre cette vérité et vende tout ce qu'ils avaient. Vous savez, au XVIIIe siècle, alors que la majorité dans les pays protestants devenait libéraux, et ils fondaient leur foi plutôt sur la philosophie grecque que sur la Bible, il a fallu qu'il y ait des hommes comme John Wesley en Angleterre, et George Whitefield en Angleterre, et beaucoup d'autres. Il y a eu aussi des hommes en France à cette époque, des hommes merveilleux, et dans d'autres pays aussi, et qui ont été prêts à tout sacrifier afin de remettre en vigueur l'autorité de la parole de Dieu. Ce grand réveil évangélique du XVIIIe siècle a finalement eu un impact sur le monde entier. Si nous sommes assis dans cette pièce aujourd'hui, c'est grâce à ce réveil. J'aimerais pendant quelques instants remonter à la source de ce réveil. Vous savez, à l'époque de la Réforme, il y a eu dans ce pays qui est actuellement la Tchécoslovaquie, en Moravie et en Bohémie, ce sont 2 provinces de ce pays, il y a eu un grand réveil spirituel. Il y avait surtout un homme, Jean Hus, H-U-2-S, qui a qui a converti énormément de gens, qui a donné la Bible à ce peuple. Et il a eu à cette époque-là beaucoup d'églises. Il s'appelait Frère. C'était des églises très simples et qui modelaient leur pratique sur la Bible, sur le Nouveau Testament. Mais la persécution après la réforme a été tellement intense, puisque le catholicisme a fait tellement pression que finalement beaucoup de ces gens se sont enfuis à l'étranger. Et il y avait de l'autre côté de la frontière, au nord de la Tchécoslovaquie, dans le petit pays de Saxe, un noble qui avait été converti, il s'appelait le comte Tietzendorf, et à Düsseldorf, il a vu une fois le grand tableau du peintre allemand Albrecht Dürer, il a vu le grand tableau de la crucifixion de Jésus-Christ. Et en bas, il a vu, Dürer avait mis cette inscription, ceci, je l'ai fait pour toi, et toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi ? Tietzendorf, c'était un jeune noble qui a été dissipé, débauché, et devant ce tableau, il a réfléchi, et finalement, il s'est donné au Seigneur. Après, il a mis toutes ses forces à répandre la Bible. Et lorsque tous ces pauvres frères moraves persécutés sont venus se réfugier dans cet état de Saxe, il a ouvert ses terres à tous ces réfugiés qui sont venus, ils ont bâti tout un village, ils ont établi des industries, etc. Et ils ont bâti une chapelle. C'était une petite communauté chrétienne très intéressante. Mais ils n'avaient pas la vision de partager leur foi avec d'autres. Ils sont restés repliés sur eux-mêmes, et au bout d'un certain temps, il y a eu toutes sortes d'histoires, de problèmes, de disputes. Et finalement, ils étaient dans une telle confusion qu'ils ont tous pris la décision d'aller à la chapelle et de prier jusqu'à ce que Dieu réponde. Et évidemment, tous ne pouvaient pas être là tout le temps, il y avait des mamans qui s'occupaient des enfants, mais il y en a qui sont restés là pendant des jours et des nuits, et lorsque finalement ils ont compris qu'il fallait reprendre le travail, Dieu avait tellement béni. Dieu était descendu dans ce village, et sa présence était tellement réelle qu'ils ont décidé de maintenir une permanence de prière. Et dans cette chapelle, il venait quand il le pouvait, il restait le temps qu'il pouvait prier, après ils repartaient pour dormir ou pour manger ou pour reprendre leur travail. Mais il y avait dans cette chapelle, nuit et jour, des gens, des hommes et des femmes qui priaient. Il y avait une flamme de prière qui montait sans cesse. Savez-vous combien longtemps a duré cette réunion de prière, cette permanence de prière? Est-ce qu'il y en a un qui sache ici? Oui.
100 ans.
100 ans. 100 ans.